suis prêt. Et avec mon épouse, heureux. Heureux de ce temps de retrouvailles où chacun d'entre nous a 5 ans et demi de plus que la dernière fois où nous nous vîmes. Le temps passe et Dieu reste fidèle. Heureux aussi pour le choix du sujet. Cela fait maintenant 23 ans que je promène mon humble carcasse dans pas mal de pays, en Europe et ailleurs, et je dois dire que parmi la 50aine de thèmes qui sont proposés aux églises et autres œuvres qui m'invitent, la prière est rarement choisie. Ce qui est quand même symptomatique à quelque part d'un problème. D'où ma joie toute particulière chaque fois que ce sujet est à l'ordre du jour. Nous allons l'approcher de manière pratique. Bien entendu, avec son infrastructure, ses bases doctrinales, cela va de soi, mais avec le souci qu'il nous permette de mieux vivre dans le quotidien notre vie de prière. Voilà, le but est fixé et nous allons simplement partager la lecture du texte qui sera notre air d'envol, notre base d'étude, donc, dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, au chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Je vous laisse le temps de trouver et le livre et le chapitre 6. Du livre de Daniel, dont je lirai pour vous les 11 premiers versets, pour ceux qui ont la même version que moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la version second revue de la Société biblique de Genève, ça devient compliqué aujourd'hui, hein, il faut le dire. Et puis pour les autres, il y a simplement un décalage d'un verset, c'est-à-dire pour ceux qui ont ce qu'on appelle la Bible à la colombe ou la nouvelle version second révisée qui est sortie récemment, il y a un décalage d'un verset, c'est-à-dire ce sera verset 2 à 12 au lieu de 1 à 11. Mais quand ce n'est qu'un verset, ça se rattrape vite si on démarre au mauvais endroit. Je lis donc pour vous, et nous suivons ensemble, Daniel 6, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, des gouverneurs de province, si vous voulez, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes, ces gouverneurs, leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. On pourrait traduire d'autres manières. Il était loyal, solide, stable, constant, tenace. La racine du mot hébreu utilisé ici a donné un mot que nous utilisons souvent lorsque nous prions, souvent pour conclure notre prière, Amen. C'est solide, c'est vrai, c'est sûr, je peux m'appuyer dessus. C'est conforme à la pensée, à la mentalité de Dieu. C'est le terme très très beau dans les Écritures. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ou ni négligence, ni rien de mauvais, ni erreur. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent précipitamment auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux et priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et qui suppliait son Dieu. En tenant compte, bien entendu, du contexte, ce sont les versets 10 et 11, ou 11 et 12, qui vont d'une manière toute spéciale nous intéresser. Et nous verrons qu'ils constituent un diamant dans ce remarquable livre de Daniel. Mais je voudrais tout d'abord, en introduction générale à ce beau et grand thème tellement fondamental, revenir sur le titre donné à cette série. Nous l'avons intitulé « La prière, farce ou force ?» Ce jeu de mots n'est pas de moi, mais je l'ai relevé avec plaisir, avec intérêt, dans un livre remarquable consacré à un réveil spirituel qui me semble être parmi les réveils les plus solides, les plus bibliquement fondés, qu'ait connu l'Église de Jésus-Christ au siècle dernier. Il a d'ailleurs duré assez longtemps dans les pays du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, ces pays qui ont tellement souffert depuis et qui ont tant de peine à se relever de la période que vous connaissez en mémoire. J'ai été moi-même très marqué par ce réveil spirituel pour avoir rencontré deux des hommes de Dieu qu'il a utilisés dans ces pays, au Rwanda en particulier, à l'époque de ce réveil. Ils sont tous les deux auprès du Seigneur maintenant. Mais le rayonnement spirituel, les messages qu'ils ont laissés, les livres qu'ils ont écrits, ont été à la base d'un grand tournant dans ma propre vie personnelle et dans ma relation avec Dieu et avec l'Église de Jésus-Christ. Et donc c'est en mai 1936 qu'un médecin missionnaire britannique que Dieu aussi a utilisé dans le cadre de ce réveil a écrit ces lignes dans un appel à la prière adressé aux croyants de ces régions. Et il écrivait ceci, « La prière est une force ou une farce. Je crois que son efficacité mystérieuse ne nous sera révélée que dans la vie à venir. La prière est le moyen matériel par lequel nos corps peuvent être mis en harmonie avec Dieu et devenir ainsi les canaux à travers lesquels sa puissance peut affluer vers les hommes. Nous pouvons nous démener furieusement, apprendre des langues, organiser, construire, il parle là en tant que missionnaire en particulier, mais tout cela ne sera que du vent si nous ne sommes pas en accord avec lui. La prière est une attitude de l'esprit et non du corps. Nous devons vivre en communion avec Dieu chaque moment de nos journées. S'agenouiller dans une réunion de prière peut être un geste aussi rituel que celui d'égrener un rosaire. Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? Les disciples s'étaient endormis parce que le fardeau de la prière n'était pas encore descendu sur eux. Ils n'avaient pas encore vu la croix. Dans le cadre de cette série, nous tendrons le micro, nous donnerons en tout cas la parole à un certain nombre d'hommes et de femmes de Dieu qui nous ont aussi livré ici et là quelques beaux joyaux que je collectionne dans ma cassette privée de mon bureau et dont j'ai tiré quelques fruits pour nous. Nous devrions en Alsace en particulier être plus particulièrement concernés par la prière à cause de ceci. J'étais à peu près sûr de ne pas avoir besoin d'emporter des bretzels avec nous. Nous en avons chez nous. Il se trouve que ces derniers jours, on n'en a pas pu. On est souvent absent en ce moment. Mais je me suis dit, aller en Alsace et ne pas trouver de bretzels chez les amis qui nous accueillent, c'est presque inconcevable. Et effectivement, n'est-ce pas, il y avait des bretzels à notre arrivée. J'ai dû rassurer Michel en lui disant que le but était tout à fait louable et que je n'avais aucun intérêt personnel ou gourmandise particulière quand je lui ai subitement posé la question « Avez-vous des bretzels ?» Pourquoi devrions-nous être concernés par la prière ? Bien, à cause de l'histoire du bretzel. Peut-être, ou sans doute, un certain nombre d'entre vous connaissent cette histoire. Je l'ai apprise il y a déjà quelques années. Je ne vais pas vous sortir un bretzel, vous les connaissez mieux que moi sur tout cela. Mais simplement, j'ai sous les yeux un petit résumé de cette histoire. Le bretzel, donc sous cette forme-là, parce que maintenant, il y a aussi les faux, hein, les tout longs, enfin bref, hein, c'est comme partout, il y a les pseudos et les vrais. Alors les vrais, ce sont ceux qui ressemblent un peu à un 8, hein, disons, pour simplifier. Ces petites pâtisseries salées ont vu le jour dans le nord de l'Italie, vers 600, l'an 600 de notre ère. Hein, c'est pas tout récent. Et bon, c'est pas très évangélique, mais ça ne fait rien. Le message est là comme ça, puisque c'est un moine qui faisait du pain à cette époque et qui remarqua qu'il restait un peu de pâte. Il en fit donc des petits rouleaux de la grosseur d'un crayon, plus ou moins grand, hein, puisque vous remarquez que ceux-ci sont des mini, je ne sais pas si on en faisait à l'époque, et il les tordit pour représenter des enfants les mains jointes. Il les recouvrit de sirop et de sel, les mit au four. Trouvant qu'ils avaient bon goût, il les donna comme récompense aux jeunes qui avaient appris leur leçon de catéchisme. Il appela ces délicieuses petites bouchées des pretiola, ce qui signifie en latin « petite récompense ». Ce moine qui a inventé les bretzels et qui les donnait aux enfants, qui connaissaient leur réponse, donc au catéchisme, était un bon psychologue, puisqu'il espérait sans doute le rappeler par là, de prier pour les vérités de la parole qu'il venait tout juste d'assimiler, en tout cas mentalement. Donc, chaque fois que vous mettez à la disposition de vos invités ou pour vous-même un bretzel, souvenez-vous de l'invitation à la prière que contient ce délicieux petit 8, quelque peu transformé avec le temps. J'aimerais bien qu'il soit devenu un 7, parce que 7 est un chiffre biblique symbolique de plénitude, d'absolu, de totalité. Mais 8, c'est 7 plus 1, c'est encore mieux que... Enfin, ce n'est pas très biblique ce que je dis là, mais vous avez compris le message qui est derrière. Venons-en, donc, dans cette introduction générale, aux circonstances qui vont donner un relief particulièrement saisissant aux deux versets 10 et 11, 11 et 12 que j'ai donc lus tout à l'heure. Vous le savez sans doute, Daniel a été déporté, déraciné vers 605 ou même en 605 avant Jésus-Christ. C'est une vieille histoire, mais plus actuel que le journal de demain, alors qu'il était probablement âgé, disons, de 14 à 18 ans grand maximum. Cela veut dire une chose, c'est que au moment où nous le rencontrons dans le cadre de ce chapitre 6, qui est daté, puisque le chapitre 5, la fin du chapitre 5, indique le renversement du dernier roi chaldéen et l'avènement à la royauté de Darius le Mède. Alors on a des âges très précis, des périodes très précises, et nous sommes aux alentours de 539-538 avant Jésus-Christ. On va vers l'an zéro, n'est-ce pas? Cela veut dire que notre ami Daniel est largement octogénaire. C'est aussi intéressant pour les écoles du dimanche, parce qu'il fut un temps où il y avait une sérieuse erreur dans le matériel visuel utilisé dans les écoles du dimanche, puisque le Daniel de Daniel 6 était un petit jeune homme. Alors il vaut mieux quand même qu'il soit un vénérable vieillard à la barbe blanche, comme celui que vous distinguez plus ou moins à la gauche, oui, à la gauche de ce panneau. C'est un vieillard. C'est un vieillard qui a donc une soixantaine d'années environ de service public, puisqu'il a servi pendant pas mal de temps, sauf pendant le règne de Belshazzar précisément, et qui dit une soixantaine d'années au moins de service, dit plus d'années que cela de fidélité envers Dieu. J'aime Daniel 6 et j'aime en particulier l'histoire de Daniel, puisque je lui ai consacré un livre, précisément parce qu'il est un de ces personnages des Écritures que l'on peut suivre du début à la fin de sa vie. Et tirer un certain nombre de conclusions extrêmement importantes que l'on ne peut pas toujours tirer de la vie d'autres personnages des Écritures, parce que Dieu nous a donné certains aspects appartenant à certaines séquences de leur vie, mais rarement du début à la fin d'une vie, puisque pour Daniel, même si le livre de Daniel commence au chapitre 1er avec l'adolescence de Daniel, et que l'on pourrait se dire que l'on ne sait rien de l'enfance, voire de la petite enfance de Daniel, il n'en est rien. Puisque à travers d'autres livres des Écritures et de notre Bible, je ne parle pas des livres apocryphes, puisqu'il existe notamment un complément au livre de Daniel qui n'est pas reconnu comme inspiré de Dieu par le peuple juif, donc par l'authentique Église de Jésus-Christ, ce sont cela les apocryphes, mais nous pouvons aller dans les livres des rois et des chroniques, et connaître indirectement des enseignements extrêmement importants sur les circonstances de la naissance de Daniel et de son enfance, qui vont énormément jouer sur toute la suite de sa vie. Nous en dirons peut-être quelques mots ultérieurement. C'est donc le témoignage d'un vieillard qui nous est offert. Et j'en suis heureux. Et j'en suis heureux pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que, disons-le, sans amertume, mais quand même à quelque part avec un soupçon d'indignation, trop souvent dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, le vieillard, il ne pèse pas grand poids. Et ceci est profondément regrettable. J'espère que ce n'est pas le cas dans votre vie d'église ici. Mais il y a vraiment une souffrance dans bien des églises, chez les croyants d'un certain âge et d'un âge certain, qui semble tout juste être bon à radoter, mais qui ne sont pas toujours écoutés. Là où l'Église de Jésus-Christ, c'est un peuple justement constitué de toutes les générations. C'est là l'aspect révolutionnaire de l'Église de Jésus-Christ, de voir des hommes et des femmes d'âges différents, de cultures différentes, d'arrière-plans différents, vivre ensemble, dans une saine écoute réciproque, dans un saint respect réciproque, recevant les uns des autres. Alors j'aime Daniel. J'aime Daniel parce que les enseignements qu'il nous donne sur la vie de prière sont d'autant plus importants qu'il a vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années en tant qu'homme de prière. Donc ce qu'il a à nous dire et que Dieu a sélectionné pour nous en 2002 doit être pris très au sérieux. C'est une vie de prière qui s'est inscrite dans la durée. C'est-à-dire qui a traversé des périodes calmes, à côté d'autres périodes extrêmement difficiles. Et combien il est bon de pouvoir en quelque sorte considérer la fin, l'issue de la vie de Daniel. Et de voir que jusqu'au bout, Daniel est resté fidèle. Et que la vie de prière est restée un moteur extrêmement central dans la vie de cet homme de Dieu. J'ai là sélectionné ce petit texte intéressant. Il s'agit d'une certaine Margaret. L'auteur la présente. Je vous présente Margaret la combattante. Elle a plus de 90 ans de souvenirs et de foi à son actif. Mais elle n'est pas prête à abandonner. Sa vie est remplie de souffrances physiques dues à la vieillesse, et bien qu'elle soit trop faible pour marcher, Margaret n'a pas renoncé à son ministère. Malgré sa faiblesse croissante, sa surdité presque complète et son incapacité de se déplacer, Margaret exerce un ministère qui a des répercussions bien au-delà des murs du foyer où elle vit. Chaque jour, souvent pendant plusieurs heures, elle s'assoit dans sa chaise, un tas de cartes de prière en main, et elle prie avec ferveur pour les missionnaires. Et parfois, quand elle peut obliger son corps frêle à le faire, elle s'agenouille à côté de son lit sur des genoux qui craquent pour s'entretenir avec Dieu. Un défi à relever. Je pense à certains visages que je vois défiler en balayant cette salle. Ça doit interpeller un certain nombre d'entre nous. Et vous savez, les églises qui négligent la vieillesse, ce sont des églises qui négligent la prière. Lorsque mon épouse et moi, nous avons commencé à servir le Seigneur en Bretagne, en 1969-1970, nous avons été profondément touchés par une équipe d'une dizaine, à peu près, hein, de personnes âgées, toutes septuagénaires, octogénaires, il y en avait même une qui était plus près de nonagénaire qu'autre chose. Mais ce qui nous a frappé chez cette dizaine de personnes âgées, c'était leur vie de prière. Et nous avons été bouleversés de voir leur soutien, leurs encouragements et leur consécration dans la prière. Ce furent 10 années particulièrement riches et bénies. Nous savons que c'est l'effet de la seule grâce de Dieu dans le service qu'il nous a confié. Mais nous savons qu'au même moment, Dieu, dans sa grâce, a utilisé d'une manière toute particulière cette dizaine de personnes âgées qui sont toutes maintenant auprès du Seigneur, auxquels d'autres se sont ajoutés parce que, je crois, à cause de leur ministère par la prière, nous avons eu aussi quelques conversions de personnes âgées, largement septuagénaires, qui sont devenues à leur tour des personnes qui aimaient prier. Et je pense à ce cercle d'études bibliques et de prières qui se réunissait à une dizaine de kilomètres de la ville de Paimpol, là où nous étions, et dont je rentrais parfois à des heures avancées de la nuit, minuit, 1 heure du matin. Et à peu près à mi-distance entre ce petit port de pêche et de l'Ogivi de la mer et la ville de Paimpol où nous habitions, où nous avions notre église, à mi-distance à peu près, en pleine nature, en pleine campagne, se dressait à un croisement de route, une maison totalement isolée. Et je savais une chose, c'est que lorsque j'allais passer sur cette route à cette heure tardive de la nuit, j'allais voir au premier étage de cette maison une chambre illuminée. Et je savais que dans cette chambre, il y avait une vieille sœur, tante Marie, qui avait rencontré le Christ vivant après des années de recherche dans le catholicisme. À 74 ans, et qui, chaque nuit, passait du temps dans la prière, pour sa région, pour l'Église, pour notre ministère. Alors je tenais déjà, simplement dans cette introduction, à mettre l'emphase sur cet aspect. Rien n'est plus bienfaisant dans une Église que des vieillards qui savent consacrer du temps à l'intercession. Combien de fois ai-je rencontré des personnes âgées dans les églises, dans les visites personnelles, qui me disaient « Mais moi, j'ai hâte d'aller voir le Seigneur. » Bon, moi aussi, j'ai hâte d'aller voir le Seigneur. Mais le problème, c'était la raison qu'elles donnaient. Parce que je ne suis plus utile à quoi que ce soit. Je suis devenu une charge. Les rares fois où je peux encore aller à l'église, il faut qu'on vienne me chercher, que l'on me ramène, etc., etc., n'est-ce pas ? Elle souffrait d'une sorte de fausse culpabilité d'être un boulet à traîner qui gênait les croyants dans l'église. Et combien de fois ai-je dû plaider pour leur rappeler qu'au contraire, elles étaient à une place des plus stratégiques dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Et qu'elles pouvaient vraiment peut-être donner ce qui leur restait de capacité au maximum dans la prière. Avec de surcroît parfois toute l'expérience accumulée au fil des années et l'exercice de la prière. N'est-ce pas ce muscle qui se développe par l'usage? Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et là, je pourrais passer des heures à vous raconter l'histoire, justement, de réveil spirituel ou de naissance d'œuvres évangéliques nationales, régionales ou internationales qui ont vu le jour par la grâce de Dieu, avant tout, parce que des hommes et des femmes, parfois perclus de rhumatisme, parcourus par l'arthrose d'un bout à l'autre de leur corps, parfois emprisonnés non seulement dans les souffrances de leur corps, mais dans une petite pièce d'où elles ne sortaient plus, mais priaient. Priaient avec persévérance, jour après jour, pour que quelque chose se passe. Je pense à la manière dont Opération Mobilisation Internationale est née, tout simplement parce qu'une femme de Dieu, pendant 18 ans de sa vieillesse, regardez des jeunes qui sortaient d'une école, je ne me souviens plus à quel degré, et elle priait pour ces jeunes, pour que Dieu sauve. Et puis elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour distribuer là où elle le pouvait, n'est-ce pas? Mais elle priait pour que Dieu touche ces jeunes et qu'une œuvre se développe en particulier parmi les jeunes. Et puis un jour, un de ces jeunes s'est converti à Jésus-Christ, il s'appelait Georges Verver. Et je pourrais vous donner tant d'autres exemples. Je ne pense jamais sans émotion à ces vieillards qui se sont succédés durant les 35 dernières années dans notre vie et dans notre ministère. Et qui, ce soir, pour certains d'entre eux, prient pour ces réunions. Ils ne vous connaissent pas. Mais ce soir, il y a des vieillards qui prient. Et qui prient fidèlement, parce qu'ils savent que nous sommes en train de servir le Seigneur à Altenkendorf. Ça ne leur dit rien du tout, Altenkendorf. Mais ils prient parce qu'ils ont ce fardeau sur le cœur pour que Dieu visite. Il faut que je m'arrête parce que j'ai envie là d'être un avocat dans ce domaine, c'est tellement important. Et si déjà là, le Seigneur remportait une victoire et que certains vieillards parmi nous qui peut-être sont découragés, sont désolés, se sentent mis à l'écart, ont l'impression qu'il est l'heure qu'ils s'en aillent, eh bien qu'ils relèvent la tête, même si ça fait un peu mal, et qu'ils reprennent le flambeau pour prier, plutôt que d'abîmer trop leurs yeux en étant obligé de regarder la télévision de très près, ce qui est très mauvais, très mauvais. Et je vous le dis parce que je pense à une de ces sœurs en Christ qui devait apprendre dans ce domaine, parce qu'elle avait tellement de problèmes de vue qu'elle avait le nez contre. Si elle avait pu entrer dans la télévision, elle l'aurait fait. Ça faisait du mal. Alors que la vie de prière, mes amis, vous offre un journal télévisé mondial extraordinaire. Vous vous baladez partout. Quand on se met à prier, on est dans tous les pays du monde. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous êtes au Laos, un des pays les plus difficiles au monde. Demain, vous serez en Chine, et que sais-je encore. Et vous voyagez gratuitement, n'est-ce pas? Et en plus, le Seigneur visite et bénit. Bien sûr. Faut-il ajouter que le vieillard Daniel ne prie pas simplement par devoir. Il ne prie pas parce que dans la Bible il dit qu'il faut prier et qu'on n'est pas un bon évangélique si on ne prie pas. Donc il faut se tranquilliser la conscience à quelque part et faire ses prières. Ce n'est pas la conception que Daniel a de la prière. Parce que de Daniel, Dieu dira tout de même trois fois, dans Daniel 9, 23, 10, 11 et 19, Daniel 9, 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, nous parlerons de ce texte plus tard, car tu es un bien-aimé. » Tu es un bien-aimé. Et en fait, c'est le mot aimé, mais il est au pluriel. C'est-à-dire qu'il a un sens de renforcement, pratiquement de superlatif, qui fait qu'on lui a ajouté le mot bien devant. Et il a en plus, le terme a en plus un sens assez particulier, dans ce sens, tu es une personne précieuse à mes yeux. Tu es une personne désirable, une personne désirée, comptée comme précieuse. Ce qui a fait dire un bon commentateur du livre de Daniel. Daniel était un homme qui faisait les délices de son Seigneur. Un homme aussi qui aimait son Seigneur, qui se plaisait à le rencontrer, qui était dans la droite ligne de ce directeur d'une des grandes chorales de Jérusalem du temps de David, ces trois chorales, le chantre Asaph, n'est-ce pas, qui dans le psaume 73, après une expérience, je dirais, de dépression, alors qu'il dirigeait la chorale et la louange, face à l'apparente injustice de Dieu, à l'absentéisme de Dieu, à la passivité de Dieu, à l'apathie de Dieu, qui semblait ne pas se préoccuper de ses propres souffrances et ne pas se préoccuper non plus de l'attitude injuste de son entourage. Lorsqu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu, quand il est entré dans l'intimité de Dieu Asaph, il s'est rendu compte combien il était stupide. C'est dans la prière, c'est dans une relation intime avec Dieu que Dieu lui a donné, lui a révélé ce qui était dans son cœur concernant sa manière d'approcher les injustices de la vie. Si bien que dans la conclusion du psaume 73, il y a un élan merveilleux du cœur d'Asaph lorsqu'il s'écrit : quel autre ai-je au ciel que toi ? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et Dieu voudrait que vous et moi, nous trouvions beaucoup plus de plaisir à dialoguer avec lui, à passer du temps à son écoute, comme on peut en avoir quand on aime profondément celui ou celle que l'on va épouser. Et où chaque heure que l'on peut grappiller sur son programme nous fait sauter dans la voiture pour le ou la rejoindre, tout simplement parce que nous l'aimons. Je voudrais que nous placions aussi ce long week-end dans cette juste perspective, que nous apprenions à prier plus encore par amour que simplement par devoir. Même si, reconnaissons-le, il y a des moments dans nos vies qui sont tels que c'est la prière par devoir qui va nous conduire à la prière par amour. Mais néanmoins, nous devons viser cela pour que la prière par amour occupe beaucoup plus de place qu'elle n'en occupe généralement dans nos vies. Faut-il dire encore, dans cette introduction, mais qui contient déjà des éléments pratiques qui nous interpellent, que Daniel a beau être octogénaire, il a des ennemis, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la retraite. Parce qu'on peut avoir une conception de la vie chrétienne qui consiste à dire, bon, pour le moment je me bats, mais j'attends cette période de ma vie où enfin je vais pouvoir y aller mollo spirituellement parce que je vais, bon, tout ralentit, n'est-ce pas ? Donc la vie spirituelle aussi, on va aller un peu plus pépère. pardon de le dire comme ça, mais on se comprend, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est une conception qui nous traverse l'esprit. Je ne veux pas dire que Dieu nous demande de faire du 200 à l'heure dans notre vieillesse. D'ailleurs, l'arthrose et les autres problèmes sont là pour nous le rappeler. Mais ce que je veux dire, c'est que la vieillesse reste le temps où le véritable disciple de Jésus-Christ continue à avoir des ennemis. D'autant plus si le vieillard est homme de prière. Précisément parce que l'ennemi n'aime pas que le croyant prie. Et j'ai là sélectionné deux passages, l'un d'un cher frère aîné regretté, René Pache, que gare en but aux plus violentes attaques, soupçonné, calomnié, martyrisé, mais aussi gardé, délivré, justicié. Leur témoignage impressionne les rois et les hommes les plus cruels comme les plus impies. Leur intercession réaliste peut sauver une nation en faisant mouvoir le bras de Dieu. Et dans un livre très intéressant sur le combat spirituel, lu récemment, l'auteur écrit ceci avec beaucoup de justesse. La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé avec air conditionné et vitesse de croisière. Le berger de nos âmes nous dirige personnellement sur une route parsemée de bosses, de tours et de détours, de nids de poules, d'embouteillages, de tempêtes de neige, d'accidents, de précipices, de faux panneaux de signalisation et même d'attaques terroristes. Et Daniel va connaître octogénaire une de ces attaques terroristes. Et nous devons nous en souvenir parce que nous avons trop de livres évangéliques lénifiants qui nous disent des mensonges. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher auprès de lui, soit par l'enlèvement de l'Église, soit en nous rappelant par la mort dans sa présence, nous vivrons de sérieux combats spirituels. Comme Daniel, nous aurons des ennemis et qui auront les mêmes comportements que ces ennemis ici dans le chapitre 6 qui vont agir en utilisant le mensonge, la calomnie, etc., etc. Ces ennemis de Daniel cherchent la faille dans sa vie professionnelle, parce qu'il n'a pas pris la retraite à 65 ans non plus, dans le domaine professionnel. Il cherche la faille dans son travail, dans le domaine de l'exercice de ses fonctions. Et ils sont tenus en échec. J'ai sous les yeux une transcription de ce texte par notre ami Alfred Kuhn qui écrit ceci. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires du royaume. Mais ils ne purent découvrir ni grief ni faute car il était fidèle et consciencieux dans toute sa gérance, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni défaillance. C'est important quand on pense que donc Daniel était un administrateur, un haut fonctionnaire, parce que dans le domaine de la politique actuelle et du monde des hauts fonctionnaires aujourd'hui, nous aimerions tant pouvoir dire cela de tous ceux qui nous gouvernent et pour lesquels nous sommes appelés à prier. Quel défi Daniel nous lance concernant la qualité de notre vie professionnelle. Oh, je ne vais pas trop enfoncer le clou puisque nous avons eu une série sur ce thème il y a déjà un certain nombre d'années de cela. Mais quand même, il faut le rappeler. Daniel travaille pour l'honneur de Dieu. Daniel a le souci de plaire à Dieu par la qualité de son travail. Il est témoin du Seigneur, de l'Éternel, dans son travail. Et il y a donc chez Daniel une sorte de refus, de cloisonnement entre vie profane d'une part et vie spirituelle d'autre part. D'ailleurs, à cet égard, il est significatif de noter que l'hébreu de l'Ancien Testament a un même terme pour désigner le travail, le service et le culte. C'est intéressant. Dans la pensée de Dieu, quelle que soit notre activité, bien entendu dans la mesure où elle est compatible avec la pensée de Dieu, avec le caractère de Dieu, parce qu'il y a aussi là tout un enseignement dans les Écritures, et les croyants des trois premiers siècles, donc des temps de persécution de l'Église de Jésus-Christ, n'exerçaient pas n'importe quelle profession. Et c'était pour eux parfois à l'occasion de grandes souffrances que de devoir dire non à certaines professions parce qu'elles étaient incompatibles avec la gloire de Dieu. Nous devons de plus en plus nous en souvenir à l'heure où de plus en plus de professions commencent à poser de sérieux problèmes. Nous devons être témoins de Jésus-Christ dans notre profession, mais nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi. Et là, je le dis aussi à l'endroit de la nouvelle génération de croyants. Si je suis jeune disciple de Jésus-Christ, même adolescent, c'est un aspect que je dois considérer et que l'Église de Jésus-Christ et que mes parents éventuellement, s'ils sont disciples de Jésus-Christ, doivent considérer avec moi. Parce que sinon, on peut aller au-devant de situations qui seront difficiles à vivre, catastrophiques, et qui généreront de graves crises dans nos vies. En tout cas, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens 3:17, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et j'ai ici aussi un très court texte du regretté professeur André Lamorte, dont j'ai tellement apprécié le ministère, qui, lors d'une conférence consacrée à la vocation de Daniel, en 1964, disait ceci: dans nos tâches privées ou publiques, dans nos relations avec le monde et avec les églises, nous ne pouvons pas, comme croyants, accepter les entorses à la vérité, l'injustice, les compromis, quoi qu'ils puissent nous en coûter. Rien ne doit prendre le pas sur les injonctions souveraines de l'esprit. Quel bel exemple que celui donc de notre ami le vieillard Daniel. J'ai aussi sous les yeux cette réflexion tirée d'un livre qui m'est très précieux, très vieux, je crois qu'il y a eu une réédition depuis, heureusement. Cela émane de Frère Laurent de la Résurrection, cuisinier dans l'ordre carmélite. Oh, c'est pas de notre temps, puisqu'il est né vers 1608 et décédé le 12 février 1691. Cuisinier, mais qui a exercé son œuvre de cuisinier dans des circonstances très difficiles. Il n'y avait pas le confort de toute manière qu'il y a aujourd'hui, mais il avait aussi de surcroît une sciatique tenace pendant 25 ans qui l'avait rendu boiteux. Il faisait souvent le travail de deux, mais il nous a laissé des paroles
qui font du bien et que je conserve précieusement. Il dit ceci, le temps de l'action n'est point différent de celui de l'oraison, de la prière. Car je possède Dieu, dans le langage de l'époque, il y a là une idée d'intimité avec Dieu, aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes, que si j'étais à genoux devant l'autel. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu de qui m'est venue la grâce de la faire, après quoi je me relève plus content qu'un roi. On cherche des méthodes pour apprendre à aimer Dieu. On veut y arriver par je ne sais combien de pratiques différentes. On se donne beaucoup de peine pour demeurer en la présence de Dieu par quantité de moyens. N'est-il pas bien plus court et bien plus droit de tout faire pour l'amour de Dieu, de se servir de toutes les œuvres de son état pour le lui témoigner et d'entretenir sa présence en nous par ce commerce de notre cœur avec lui? Il n'y faut point de finesse. Il n'y a qu'à y aller bonnement et simplement. De quoi nous encourager à ne pas créer de fossé, de divorce entre vie spirituelle et toutes les autres activités qui tissent notre quotidien. Que tout cela soit un, que demain, en partant au boulot et en faisant peut-être des choses dont il nous semble qu'elles nous font perdre notre temps, nous puissions dire, eh bien Seigneur, là où je serai parce que tu m'y as placé et pour être témoin là où tu m'as placé, comme tu le veux. Non pas pour prier, pour parler aux autres du Seigneur à l'heure où il faut travailler, parce qu'il ne faut pas tricher non plus, mais déjà, pour montrer par la qualité de son travail la place que le Seigneur occupe dans notre vie. Alors, nous avons dit que les ennemis de Daniel ont cherché la faille, le point faible, dans son activité professionnelle. Ils ne l'ont pas trouvé. Il n'y avait pas de magouille, pas de dessous de table, pas d'utilisation frauduleuse de l'argent, pas de malhonnêteté, rien de tout ça. Alors, ses ennemis se sont grattés la tête et ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait alors le coincer? Il est insaisissable, ce vieillard. Et à ce moment-là, ils ont cherché son point fort. C'est quand même intéressant parce que nous disons souvent que le diable nous attaque sur nos points faibles. Comme s'il ne nous attaquait pas sur nos points forts. Le diable nous attaque sur les deux. Et c'est précisément parce que nous ne sommes pas assez vigilants sur nos points forts que plus d'une fois nous tombons dans le domaine de nos points forts. Et si je dis point fort, c'est tout simplement parce que, d'une part, bien évidemment, les collègues de Daniel l'avaient déjà entendu prier, puisqu'ils ont su très bien comment s'y prendre pour le coincer. Et d'autre part, ils évoquent la loi de son Dieu. Et ils savent que dans la loi de son Dieu, qui n'est pas la leur, la prière est importante. Et qu'un serviteur de l'Éternel, comme l'est le vieillard Daniel, ne saurait se passer de prière pendant 30 jours. C'est quelque chose d'inconcevable. Eux ont compris ce que tant de disciples de Jésus-Christ n'ont pas compris. Et souvent, le monde comprend mieux les choses que les chrétiens. C'est quand même curieux, hein. Nous faisons souvent des procès au monde dans des domaines où le monde pourrait nous remonter les bretelles. Bien sûr, lui ne pratique pas ce qu'il voit chez nous qui va, hein, on se comprend, il nous fait la leçon. C'est comme ça, il nous fait la leçon et nous devons accepter qu'il nous fasse la leçon même s'il n'est pas conséquent avec lui. La réputation de Daniel, c'est sa vie de prière. Elle est importante à ses yeux. Parce que, comme l'a dit Bouche d'Or, Jean Chrysostome, ce père de l'Église, où il ne faut pas accepter toute sa théologie, mais qui néanmoins lisait l'Épître aux Romains une fois par semaine, c'est pas rien, et qui s'en imprégnait. Et Chrysostome, au 4e, 5e siècle en partie, à cheval sur les deux, si mes souvenirs sont exacts, qui disait « Celui qui prie a sa main sur le gouvernail du monde ». Luther, avec son langage à lui, dira « Le chrétien doit prier comme le cordonnier faire des chaussures et le tailleur des costumes. La prière est le métier du chrétien. » Alors, bien entendu, tout ceci nous amène toujours dans ces remarques importantes avec un souci d'équilibre, à souligner que la prière ne saurait remplacer le travail, et le travail ne saurait être prière. Il faut le dire, parce que dans certaines conceptions religieuses, on a présenté le travail en lui-même, dans son essence, comme prière, placé dans, sur le plateau de la balance des œuvres méritoires en vue de gagner le ciel. Ce n'est pas une conception biblique du travail, ni de la prière. Et là, c'est Martin Luther King, dont je n'aime pas la théologie en général, mais dont j'apprécie la qualité de vie qui fut la sienne et son courage. Martin Luther King disait « Dieu qui nous a donné des intelligences pour penser, des corps pour travailler, irait à l'encontre de ses propres desseins s'il nous permettait d'obtenir par la prière ce qui peut nous venir par le travail et l'intelligence. La prière est un accompagnement merveilleux et nécessaire à nos faibles efforts, mais c'est un substitut dangereux. » Et je le dis simplement parce que il m'est arrivé de devoir, dans des entretiens personnels, dans les camps de jeunesse en particulier, recommander à certains jeunes de mieux travailler à l'école et de moins prier. Ah oui. Tout simplement parce que la prière était devenue une forme de fuite devant les exigences de bien travailler pour réussir les examens. Et c'est subtil parfois, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, Seigneur, je te donne beaucoup de temps. Pendant ce temps, je ne planche pas mes maths. Hein. Et puis, je suis sûr que l'examen, ça va se passer comme ça. Hein. Et puis, ils sont tout étonnés quand ils ratent. Alors, j'ai toujours dit, pour l'avoir expérimenté moi-même quand j'étais étudiant, que je n'escamotais pas mes rencontres avec le Seigneur. Bien au contraire. Ça, c'est une règle fondamentale, quel que soit le programme, et je dirais plus il est chargé et difficile, plus je maintiens le cap de bien commencer ma journée à fond avec le Seigneur. Non pas pour me tranquilliser la conscience, nous y reviendrons, mais tout simplement parce que j'en ai besoin, je ne peux pas m'en passer, je dois dépendre de Dieu. Alors je commence avec lui. Priorité absolue. Et je ne vais pas dire, puisque j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup à réviser, je vais donner 50% de temps au Seigneur par rapport à ce que je fais d'habitude. Non. On passe le temps qu'il faut dans sa présence. Mais on dit, Seigneur, s'il te plaît, je vais vraiment travailler de tout mon cœur parce que je veux t'honorer en refusant d'être paresseux dans mon travail, dans ma préparation d'examen. Mais Seigneur, je sais que tu as une capacité extraordinaire, c'est un don de ta part. C'est une grâce de ta part. Mais Seigneur, tu es capable de décupler mes facultés, mes capacités de retenir. Tu peux me donner la sagesse, l'intelligence pour savoir comment orienter mon programme de révision, etc. Et c'est fou ce que Dieu le fait. Moi, j'ai été bouleversé de voir combien de fois, comment Dieu s'y est pris pour développer les capacités de manière à ce que je puisse bien avancer, mais en travaillant. En travaillant. Souci de priorité, mais aussi souci d'équilibre. J'ai sous les yeux le témoignage d'un certain André-Marie Ampère. Ça vous dit quelque chose, hein, les Ampères? Eh bien, Ampère, qui a vécu donc de 1775 à 1836, a écrit ceci. Travail, donc c'est un impératif, travail en esprit d'oraison, en esprit de prière, le vieux mot, hein, travail en esprit d'oraison. Étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton état, mais ne les regarde que d'un œil, que ton autre œil soit constamment fixé sur la lumière éternelle. On peut se permettre des strabismes dans certains domaines. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille. Que l'autre soit toujours prête à recevoir les doux accents de ton ami céleste. Ça, c'est comme les lapins, hein, ils tournent les oreilles dans tous les sens, ils ont des capacités d'écoute absolument phénoménales. Et continue. N'écris que d'une main. De l'autre, tiens-toi aux vêtements de Dieu, comme un enfant se tient attaché aux vêtements de son père. Sans cette précaution, tu te briserais infailliblement la tête contre quelque pierre. Que je me souvienne toujours de ce que dit saint Paul. Usez de ce monde comme n'en usant pas. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui, reste unie à Dieu et à Jésus-Christ. Alors chaque fois que vous mangez des bretzels, vous pensez à la prière. Chaque fois que vous utilisez du jus, du courant électrique, vous pensez à Ampère. Et vous pensez à l'équilibre entre la prière et le travail. Équilibre de Daniel. Faut-il évoquer encore dans ce défrichage, labourage, la nécessité de ne pas tomber dans le piège de la prière à contre-temps. Une sorte de piété désincarnée, dépourvue de sens. Nous connaissons psaume 32, verset 6, ce psaume de David, d'humiliation et de témoignage du bonheur retrouvé. Qu'ainsi, tout homme pieux, ou fervent, au cœur brûlant pour Dieu, qu'ainsi tout homme pieux, fidèle, te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte plus tard. Mais je pense ici, toujours par souci d'exemple pour nous aider, à cet évangéliste et revivaliste Moody que Dieu a remarquablement utilisé et qui se rendait par bateau en Angleterre lorsque soudain sur le bateau retentit la sirène. Un incendie venait d'éclater à bord et sans hésiter, tous les passagers se portèrent en hâte au secours des marins qui luttaient déjà contre le feu. Et à ce moment-là, un des collaborateurs de Moody lui propose d'aller plutôt à l'extrémité du bateau, là au calme, pour prier. Nous allons demander à Dieu d'intervenir et de sauver la vie de tous les gens. Et Moody, simplement de répondre, « Jamais de la vie, ce n'est pas le moment, prenons des seaux et allons prêter main forte aux autres, cela ne nous empêchera pas de prier en même temps. » Et le même Moody, ça c'est aussi intéressant dans nos vies d'église, aimait à raconter qu'il se trouvait un jour au milieu d'un groupe de riches chrétiens américains, bon ils auraient pu être d'une autre nationalité, ça fait rien, qui priaient instamment pour qu'une dette de $500 qui pesait sur leur chapelle fût bientôt acquittée. Et Moody de leur dire, messieurs, Je crois bien que si j'étais à votre place, je ne dérangerais pas le Seigneur pour cette affaire-là. Importance donc, en conclusion à ces préliminaires mais très pratiques, importance d'une vie cachée. Qu'en est-il de notre vie cachée? Ça, on n'aime pas beaucoup la vie cachée. Hein? Pourtant, c'est elle qui détermine la qualité de notre vie publique. C'est ce qui se passe dans le secret. Qu'en est-il de notre vie secrète? Voilà une question que j'aimerais vous laisser. Qu'en est-il de notre vie secrète? De ce que les autres ne voient pas. Je me souviens avoir pris ici, dans cette salle ou dans l'ancienne, peu importe, l'exemple de cette acacia du Ténéré, dont la dépouille se trouve dans un des plus beaux musées de l'Afrique de l'Ouest, à Niamey, je l'ai visité moi-même, sous un mausolée, tellement cet acacia est devenu célèbre puisqu'il figurait sur toutes les cartes de l'Afrique et du Sahara. Ce tout petit point au milieu du désert du Ténéré, n'est-ce pas, 400 000 kilomètres carrés. La France en fait 551 000. Ça vous donne une idée. 400 000 kilomètres carrés. Et il était, à peu près à 70 kilomètres de l'oasis la plus proche. Avec des températures absolument incroyables, on pouvait monter jusqu'à 70 degrés au soleil. Mais un lieu extrêmement important pour toutes les caravanes de passage dans ce secteur de l'Afrique. Et puis un jour, en 1974, ce seul arbre du Ténéré a été renversé par un camionneur libyen. Un seul arbre, hein? Vous pouvez les enlever tous les arbres au bord des routes, hein? Quand il n'y en aura plus qu'un seul, bon. Et alors on a dressé à la place une espèce de, comment appeler ça, de porte-manteau, une espèce d'arbre métallique qui ressemble plus à un porte-manteau qu'autre chose, couvert de graffitis aujourd'hui, parce qu'il fallait laisser ce point sur les cartes, il était extrêmement important. D'ailleurs, il y a eu quantité de personnes qui sont mortes pas loin de cet endroit depuis. Alors les superstitions courent à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé lorsque cet arbre est tombé et qu'on était tellement curieux de savoir comment il était possible qu'un arbre soit là, tout seul, au cœur de cette région tellement difficile, tellement aride, dans cet immense désert, n'est-ce pas ? On a creusé. 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Et moi, je m'arrête très tôt, je m'arrête à 33 mètres, parce que certains sont allés jusqu'à 50 mètres. Il y a toujours de la surenchère, n'est-ce pas? Alors j'ai décidé de rester au plus bas, 33 mètres de profondeur. C'était l'endroit où ses racines aboutissaient. Dans le lit d'un ancien fleuve qui, en fait, autrefois traversait cette région, et on en a bien des traces dans le massif du Hogar, etc., n'est-ce pas? 33 mètres. Ça, c'est la vie en profondeur. Et ça, c'est Daniel. Daniel vieillard, c'est un homme qui, c'est un véritable acacia du Ténéré, qui a souvent été seul, seul dans sa foi, isolé, au milieu de l'hostilité, de la jalousie, risquant sa vie continuellement avec des potentats qui étaient d'une cruauté indescriptible, n'est-ce pas? Et qui a tenu le coup tout au long des années, traversant de terribles tempêtes, dont celle-ci, parce qu'il avait creusé dans le sol de sa vie en profondeur des racines spirituelles dans la vie de prière. Le pouvoir de la profondeur. Et mes amis, il n'y a pas de secret. Dans les tempêtes qui nous assaillent, vous et moi, un jour ou l'autre, et plus d'une fois dans la vie, seuls ceux et celles qui apprennent à plonger des racines de plus en plus profondément dans le sol de Dieu, dans la vie cachée, sont ceux qui sont rendus féconds dans leurs épreuves et qui reçoivent de Dieu la capacité de les accepter même sans les comprendre. Parce que c'est ça ce qui est difficile. D'accepter sans comprendre, mais en disant « Seigneur, je ne comprends pas. Je te fais confiance. Et je continue la route. Parce que j'ai déjà si souvent expérimenté ta fidélité. » C'est ce que Daniel pouvait dire en tant qu'octogénaire. Alors, nous allons terminer avec cela. Je ne vous entraînerai pas plus loin pour que vous soyez encore vivants dimanche matin. Mais ce que nous allons avoir au programme, ce sont six indications fondamentales d'ordre pratique pour notre vie de prière personnelle. Six indications complémentaires qui sont contenues, en tout cas c'est celles que Dieu m'a donné de découvrir simplement dans ces versets 10 et 11, ou 11 ou 12. Ce qui fait que nous n'allons pas nous allonger sur la vie de prière communautaire. La vie de prière communautaire est le prolongement de chacune de nos vies de prière personnelle. C'est aussi simple que ça. Bien sûr qu'elle est là aussi, la vie de prière communautaire, pour stimuler nos vies de prière personnelles. Mais l'église locale, elle est l'addition de nos vies individuelles. La vie de l'église locale, elle est l'addition de nos vies familiales, etc., n'est-ce pas? Il faut aussi le dire. Nous apportons dans l'église aussi, locale aussi, tout notre héritage spirituel de la semaine, ce que nous faisons, ce que nous vivons avec le Seigneur. Donc nous n'allons pas nous appesantir sur la vie de prière collective, bien que pas mal des éléments dont nous allons parler peuvent s'appliquer à elle. Six indications, on va anticiper demain soir, en tout cas, nous allons parler d'endroits. Tout simplement parce que le texte précise, il commence par là, que Daniel s'est retiré dans sa maison, et plus spécialement dans la chambre supérieure de sa maison. Nous allons essayer de comprendre ce que cela signifie pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui, à la lumière d'autres exemples des Écritures et de l'histoire des hommes et des femmes de Dieu, c'est déjà un premier élément fondamental de la vie de prière pratique. Et ainsi, nous avancerons peu à peu, ainsi que le Seigneur nous dirigera au fil de nos soirées et jusqu'à dimanche matin. Permettez-moi simplement, en conclusion, de vous laisser encore deux beaux textes, deux joyaux. L'un est de notre ami Moody, que nous avons déjà évoqué, qui avait une écriture aussi très riche, mais un homme de Dieu remarquable, qui a écrit ceci. « L'homme ne peut pas plus vivre physiquement sans respirer que spirituellement sans prier. » Il existe une catégorie d'animaux, les cétacés, qui ne sont ni des poissons ni des oiseaux des mers, qui habitent les profondeurs. C'est leur maison, et ils ne la quittent jamais pour le rivage. Cependant, bien qu'ils nagent sous ces vagues et sondent ces profondeurs les plus noires, ils doivent de temps à autre remonter à la surface pour respirer. Sans cela, Ces monarques des profondeurs ne pourraient exister dans l'élément dense où ils vivent, se meuvent et passent leur existence. Et ce qui leur est imposé par une nécessité physique, le chrétien se le voit imposé par une nécessité spirituelle. De temps à autre, il doit monter jusqu'à Dieu, en s'élevant par la prière dans les régions plus hautes et plus pures, pour faire ses provisions de la grâce divine, afin de maintenir sa vie spirituelle. Empêcher ces animaux de remonter à la surface et ils mourront par manque de souffle. Laissez-moi respirer, dit l'homme qui suffoque, sinon je vais mourir. Laissez-moi prier, dit le chrétien, sinon je vais mourir. Et c'est Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui écrit ceci: la prière en soi est une bénédiction. Prier, c'est en quelque sorte se baigner dans la fraîcheur et le doux murmure d'un ruisseau pour échapper aux ardeurs du soleil estival. Prier, c'est s'élever sur les ailes d'un aigle au-dessus des nuages et prendre son essor dans la clarté du ciel où Dieu habite. Prier, c'est entrer dans le trésor de Dieu et s'enrichir en puisant dans des réserves inépuisables. Prier, c'est saisir le ciel à plein bras, faire entrer la divinité dans son âme et sentir son corps transformé en temple du Saint-Esprit. Mis à part l'exaucement, la prière est une bénédiction à elle seule. Prier, mes frères, c'est se débarrasser de ses fardeaux, c'est déchirer ses haillons, c'est se secouer pour faire tomber ses maladies, c'est être rempli de vigueur spirituelle, c'est parvenir au sommet de la santé chrétienne. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Nous prions. Et nous prions, Père, en te remerciant de tout notre cœur, de nous avoir doués d'esprit à la différence de ce que nous appelons le monde animal. C'est-à-dire nous avoir doués de cette capacité de nous adresser à toi. Seigneur, c'est un cadeau. Quand tu as créé l'homme, tu l'as créé pour qu'il puisse continuellement parler avec toi, t'écouter, échanger, vivre une communication intense, intime. Seigneur, nous voulons ce soir t'adorer pour cela, te remercier pour ce cadeau que tu nous fais et dont nous mésusons, hélas. Pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous n'utilisons pas ce cadeau comme nous le devrions. Mais nous avons soif d'apprendre. Et nous te bénissons parce que nous pouvons nous mettre durant ces soirées au pied d'un vieillard qui est dans ta présence et qui a appris à prier et qui a été fidèle jusqu'à la fin. Dans la prière, tout comme dans sa qualité de vie et d'activité professionnelle. Merci parce qu'il est notre frère, il est de la même nature que nous. Tu l'as béni richement. Il a été celui qui a fait tes délices et qui a fait ses délices de toi. Seigneur, nous ne voulons pas avoir de sainte ambition moindre que celle d'être de plus en plus des hommes et des femmes de prière. Apprends-nous à prier et apprends-nous comment prier. Nous t'en bénissons parce que tu nous exauces. Il n'est pas de prière aussi proche de ta volonté parmi d'autres que celle-ci. Alors nous te remercions parce que tu veux nous exaucer par les chemins de ton choix, selon ton cœur de Père. Et c'est à cause de ton Fils Jésus-Christ, en son nom, et par le Saint-Esprit que nous t'adressons cette prière à la fois d'adoration et cette requête pour nos vies à chacun. Amen.